la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bonjour chères amies chroniqueuses, salut Héloïse, comment va ?
Ça va, mon casque ne marche pas, Ludo.
Ah, mais tu me demandes de baisser, je baisse,
merci.
Et voilà.
Tout va bien, tout va mieux, bonjour à tous.
Salut, nouvelle diplômée Popo.
Salut tout le monde.
Tiens, Valérie a fait son ménage de printemps, elle a encore un peu de poussière sur l'épaule.
Exactement.
Salut Valérie.
Exactement, bonjour.
Est-ce que ton homme t'a aidé à faire ce ménage de printemps avec toi ?
Ah, mais absolument, c'est même lui qui en a eu l'initiative et égalité des sexes parfaite, je l'ai regardé une bière à la main en regardant un match de rugby pendant qu'il le faisait.
Et oui, car nous sommes en 2018, Valérie, en France, mais ce n'est pas toujours le cas. Je parle bien évidemment d'égalité entre hommes et femmes, car dans cette 64e émission de Par le bout de la lorgnette, nous allons parler de féminisme. Alors, peut-être pour commencer, Louise, est-ce que c'est un sujet récent dans la littérature où on a pu parler de ce sujet-là il y a quelques décennies ou voire plus ?
Alors, évidemment, y a toujours des femmes qui ont parlé des droits des femmes et qui ont parlé de l'importance de leur sexe dans leurs écrits, que ce soit romans ou essais, etc. Après, je pense qu'on n'appelait pas cela du féminisme à l'époque. C'était tout simplement une revendication, en fait, de leur genre et dire, bah, nous aussi, on peut faire des choses, que ce soit en littérature ou en sciences ou dans d'autres domaines, il y a toujours eu des femmes en fait qui se sont battues parce que maintenant c'est dur, mais à l'époque c'était encore plus dur pour réussir à être reconnues en fait dans leur domaine. Et je pense à des auteurs comme Jane Austen ou les sœurs Brontë. Quand on lit leur écrit maintenant, bah, ça paraît très moderne et très féministe, alors que voilà, c'était une époque plus ancienne effectivement où ce mot n'existait pas encore.
Voilà, et avec les derniers événements, est-ce qu'il y a certains auteurs qui surfent sur cette vague d'égalité, de féminisme ?
Après, oui, forcément, il y a des livres qui sortent sur le sujet parce que c'est un sujet qui peut-être touche un peu plus de monde et peut-être que les gens s'interrogent plus, enfin j'espère en tout cas. Donc il y a pas mal de livres effectivement qui sortent en ce moment sur ce thème, même si effectivement ça a toujours existé, ça a toujours été un combat existant.
Très bien, mais écoute Héloïse, on va te laisser la parole, hein, te lancer.
D'accord, très bien. Juste pour commencer, en fait, le féminisme, ça peut être un mot qui fait peur et on pense tout de suite effectivement à des femmes qui
seins
nus ou à
ça fait pas peur ça, hein.
Ou à de la violence lors de manifestations ou quoi, ou à de la radicalité dans les propos, etc., par rapport aux hommes notamment. Mais après, tout simplement, la définition à la base du féminisme, c'est le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes et pour la maîtrise en fait de son corps. Voilà, c'est tout. Après, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs dérives, il y a plusieurs aussi courants politiques qui se sont associés à ça. Mais à la base, c'est un courant aussi basique que celui-ci. Voilà. Et ça semble logique comme combat, j'imagine.
C'est bien de le rappeler, oui.
Voilà. Je vais commencer par une auteure très connue, une auteure canadienne, très connue justement pour son combat pour les femmes et pour ses écrits assez chocs sur le thème... des droits des femmes, c'est Margaret Atwood. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Oui, Pauline ?
Pas moi, non.
Alors pourquoi, du coup, tu connais ? Tu en as lu ou...
Ouais, j'ai lu celui que tu vas nous présenter. Mm-hmm. Et puis c'est surtout, j'ai vu la série qui en est tirée.
Oui, tout à fait.
Série quoi ? Série télé ?
Oui.
Il y a une série
d'accord.
qui a beaucoup de succès en ce moment et qui s'appelle The Handmaid's Tale. La saison 2 va sortir dans quelques jours, je crois. Et ça a eu beaucoup de retentissement parce qu'elle est sortie quelques mois après l'élection de Trump. Et en fait, elle porte toutes, enfin pas toutes les femmes, mais elle porte, certaines portent une tenue rouge. Et c'est devenu un emblème, en fait, cet habit rouge dans plusieurs manifestations féministes à travers le monde. Voilà. Donc je vais vous expliquer en fait le pitch, l'histoire de la servante écarlate. On est des années dans le futur, c'est ce qu'on appelle donc une dystopie, voire de la science-fiction. Et donc, une société, les États-Unis, qui a été renversée, en fait, la démocratie a été renversée par une dictature religieuse. Tu me coupes hein, si je me trompe, hein, mais par une dictature religieuse assez... assez carré et assez violente, on va dire. Il y a un problème de fertilité, en fait, chez les femmes. Il y a de moins en moins d'enfants à cette époque-là, donc qu'on nous décrit. Et de moins en moins de femmes, en fait, qui peuvent avoir des enfants. Donc, du coup, les femmes les plus fertiles sont asservies. Donc, elles sont des esclaves sexuelles, on va dire, pour des hauts gradés de la société, les commandants. Et donc, une fois par mois, en fait, elles... Elles vont à la saillie.
Elles participent à une cérémonie, c'est beaucoup plus beau.
Voilà, c'est une espèce de cérémonie effectivement assez bizarre où la servante est allongée sur le lit du couple, du commandant, avec sa femme et avec le commandant. Et du coup, c'est un espèce de rituel qui n'a rien de romantique et qui a quelque chose au contraire de très violent, que ce soit pour la femme du monsieur ou que ce soit pour la servante. Ou, enfin, voilà, c'est très spécial. Et donc, du coup, dans le but d'avoir des enfants et de repeupler en fait, ce pays qui a de grandes difficultés. Voilà.
Quel pays ?
Le pitch. C'est les États-Unis.
C'est les États-Unis, d'accord.
Voilà, donc dans le roman, on suit une servante écarlate en particulier. On suit son quotidien. Elle se rappelle aussi la formation qu'elle a subie pour devenir une servante écarlate, parce que c'est pas un choix. Voilà, pour ces femmes, c'est pas du tout un choix, même si leur position est peut-être plus enviable que certaines positions d'autres femmes encore dans cette société-là. Et donc, elle se souvient de sa formation avec les tantes, quelque chose de très sérieux, de très violent, une éducation où on leur bourre la tête de phrases et de phrases toutes faites, etc. Et elle se souvient encore de son passé quand tout était normal, avec son copain, elle avait une fille, elle se souvient de tout ça. Et tout ça l'aide en fait un peu à survivre à sa condition actuelle, parce que à part ça, en fait, elle ne fait rien. Enfin, elle reste dans sa chambre où il n'y a aucun objet. Elle n'a pas le droit de lire, elle n'a pas le droit d'écrire. Elle sort une fois par jour faire les courses, mais c'est tout, et c'est vraiment une distraction peu... C'est pas très...
Il est réjouissant, ce livre.
Et son maître, entre guillemets, il est heureux de cette condition, parce que c'est pareil.
Non. Enfin, là, personne n'est vraiment heureux. Alors, du coup, on comprend qu'il y a aussi une résistance, en fait, qu'il va y avoir... un sursaut, une résidence souterraine entre les servantes écarlates, avec des fois des alliés inattendus. Donc voilà, c'est une histoire de... C'est, en fait, Margaret Atwood dit que c'est vrai que la position des femmes peut changer très vite, en fait, en fonction du pouvoir en place et des religions. Et c'est vraiment les premières, en fait, à trinquer, on va dire. Et après Ludo...
C'est ça. Après moi.
Et c'est vraiment un esprit de... Enfin, c'est de la science-fiction, évidemment, mais je trouve que c'est très bien pensé. Il y a plein de choses, en fait, qui nous rappellent, effectivement, les conditions de plein de femmes dans le monde aujourd'hui, sous des dictatures. Ou, voilà. C'est très spécial et c'est très, très intéressant. C'est très bien écrit. Et est-ce que je voulais que je vous lise un passage ou...
Oh oui.
Mais pas un qui fait pleurer.
Non. Oui, et pas un trop olé olé.
Pas un soir de cérémonie. Très...
Alors, donc là, elle rentre dans sa chambre, en fait. À pas de loup, je parcours le couloir mal éclairé, gravis l'escalier ouaté et regagne ma chambre. Là, je m'assieds sur la chaise, lumière éteinte, vêtue de ma robe rouge, agrafée et boutonnée. On ne peut penser clairement que tout habillé. Ce qu'il me faut, c'est une perspective. L'illusion de profondeur créée par un cadre, la disposition des formes sur une surface plane. La perspective est nécessaire. Autrement, il n'y a que deux dimensions. Autrement, l'on vit le visage écrasé contre un mur. Tout n'est qu'un énorme premier plan, de détails gros, plans, poils, la texture du drap du lit, les molécules du visage, sa propre peau comme une carte, un diagramme de futilité, quadrillé de routes minuscules qui ne mènent nulle part. Autrement, l'on vit dans l'instant, et ce n'est pas là que j'ai envie d'être. Mais c'est là où je suis, impossible d'y échapper. Le temps est un piège, je suis prise dedans, je dois oublier mon nom secret et tout ce qui était avant. Je m'appelle maintenant De Fred et c'est ici que je vis.
Très bien. Mmh. C'est un roman unique ou c'est une série aussi?
Oui, c'est unique.
D'accord.
Mmh. Et d'ailleurs, la série, la première saison était adaptée à partir du roman et ça se finit où se finit le roman. Et beaucoup de gens étaient sur leur fin par rapport à la fin. Et la saison 2 qui sort là, de la série, en fait, invente une suite à cette héroïne et à cette aventure. Voilà.
D'accord. Ok. Écrit quand?
Alors, il est sorti en 85 en France.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est relativement ancien. Mais du coup, là, ça a été effectivement remis au goût du jour. Voilà.
D'accord. Et on suit ce combat un peu dans ce roman où ces femmes n'arrivent pas à s'en sortir? Il y a un combat quand même qui existe, il y a une lutte.
Il y a un combat, mais qui est très silencieux et souterrain, quoi. Elles peuvent pas, c'est vraiment une dictature très, très, très forte. Elles ont peu de marge de manœuvre, mais elles font quand même ce qu'elles peuvent, même dans des petits actes du quotidien pour résister, quoi, comme elles peuvent.
J'imagine qu'on ne peut pas dire si l'issue leur est favorable.
Après, il y a plein de plans, etc. Parce que là, c'est juste les États-Unis. Le reste du monde est tout à fait normal, en fait, aux alentours. Donc, en fait, le plan pour toutes, c'est un peu d'essayer de passer la frontière pour aller au Canada. Et voilà. Mmh. Et même, c'est drôle. Il y a des touristes japonais qui viennent voir quelles sont leurs conditions, etc. dans le livre. Enfin, parce que ouais, c'est que aux États-Unis que ça se passe comme ça.
D'accord. Voilà. Très bien. Merci, Héloïse.
C'est super, c'était un peu sombre peut-être, mais c'est très bien.
Allez, on va égayer la suite. Popo, égaye-nous tout ça.
Ah.
D'accord, Valérie, vas-y. Allez.
Mais oui, moi j'ai un livre qui est pour les enfants, donc forcément ça va être gay.
Ah, moi aussi j'en ai un pour les enfants.
En fait, c'est la déclaration des droits des filles, donc de Elisabeth Brami et Estelle Bilon Spagnol, Donc c'est édité chez Talent Haut et c'est soutenu par Amnesty International. Alors, ils ont déjà fait ça comme il faut, moi j'ai la déclaration des droits des filles, puisqu'on est sur le féminisme, mais il existe aussi la déclaration du droit des garçons, la déclaration du droit des mamans et la déclaration du droit des papas. Voilà, donc ils ont oublié personne. C'est un petit livre pour enfants, alors je crois qu'ils le mettaient à partir de 7 ans. Et c'est un petit livre qui est court, ce sont des petits articles. Article 1, les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, bourriffées, écorchées, agitées. On va avoir l'article 7, le droit de choisir le métier qu'elles veulent, conductrice de camion, astronaute, commissaire de police, juge, directrice d'usine, blablabla. Voilà. Et c'est plein de dessins un peu fouillis sur chaque page. Et c'est un peu la petite pagaille. Et ça montre bien que bah, les enfants, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors, ça peut paraître évident. L'article 8, par exemple, dit « Les filles comme les garçons ont le droit de s'inscrire au judo, au tir à l'arc, à la boxe, au foot, à l'escrime. » Moi, ça me semble évident. Si je lis cet article-là avec ma fille de 10 ans, ça va lui sembler évident. Mais c'est un super outil pour lancer le débat, pour dire « Oui, mais pour nous ici... dans nos conditions à nous, c'est évident, mais c'est pas évident partout. Donc c'est une super approche de discussion sur justement le droit des femmes, le droit des filles, un peu partout dans le monde, puisque on a la chance nous d'être relativement épargnés, peut-être de vivre avec moins de clichés que certaines autres personnes. Et là, ce livre, en fait, les dessins sont très humoristiques, donc ça permet d'aborder des sujets. Tout en douceur et des clichés aussi, puisqu'on apprend que les filles ont le droit d'être fortes en maths et pas géniales en français. Voilà, ça démontre déjà des clichés.
Ce qui est le cas ici dans cette émission.
Absolument, n'est-ce pas?
Merci Valérie.
Qui est forte en maths ici?
Moi?
Ah oui. Mais c'est un petit bouquin qui est assez court et qui permet de voir que des petits, en fait, on va sexualiser beaucoup les choses, les métiers, les façons de penser. À un moment donné, la petite fille, elle va chez la coiffeuse et puis elle dit non, je veux les cheveux courts. Et la coiffeuse, on sent qu'elle n'est pas très contente de lui couper les cheveux.
Et alors, elle coupe, elle avait les ciseaux, il y a l'onomatopée, il y a le quick, quick. Et la fille, elle a les cheveux quasiment rasés, elle est aux anges. On sent qu'elle est épanouie, voilà.
C'est pas un peu trop cliché ?
Bah, justement, c'est... Ça permet de lancer le débat, de dire voilà, si tu es une petite fille, tu as le droit aussi d'avoir.
Oui, après, c'est pour des enfants. Donc, voilà.
Oui, pour et des puis enfants, ça paraît. Et même lire à un petit garçon, oui. Parce que c'est vrai que dans la cour de récré, des fois, ouais, bah non, tu peux pas jouer au foot, t'es une fille.
Bah oui, voilà.
Bah, voilà. Bah, du coup, ça peut permettre d'expliquer certaines choses.
Voilà, de dire que dans certains endroits, il n'y a pas d'école fille et l'école garçon est séparée, voire. Il n'existe qu'une école pour les garçons et les filles n'ont pas accès à l'éducation. Voilà. Mmh. Et le dernier article permet d'ouvrir encore plus le débat, puisque le dernier, c'est le droit d'aimer qui elle préfère, fille, garçon ou les deux. Mmh. Voilà. Et c'est là où vraiment le débat est le plus...
Le droit d'aimer, ça pourrait faire un beau titre de chanson, ça.
N'est-ce pas? Ou savoir aimer, Pagny. Sinon.
Florent Pagny, Pentagonie, 1994. Alors, Rock Voisine a chanté ça aussi?
Oh, il devrait.
Oui.
Il pourrait. Voilà, donc c'est un petit livre court qui est une bonne, j'allais dire, entrée en matière toute douce sur le qu'est-ce que le féminisme, voilà, qui est très loin de la violence verbale et physique qu'on peut voir des fois de certains groupes, justement.
D'accord, quel âge?
Oh, moi, je dirais à partir du CP. Enfin, il n'y a rien de... Les dessins sont mignons, les textes sont faciles à lire. C'est très court, hein, c'est les articles... C'est pas la déclaration du droit des hommes. Hein, c'est... Enfin, avec un grand H, pardon. Donc, c'est assez court et ça permet de... C'est vrai, là, vraiment, c'est plus pour lancer le débat. Parce que là, demain, vous donnez à un enfant qui n'est pas forcément... qui se sent pas pris sur ces clichés, je pense que si on en débat pas avec, ça va pas plus loin. Mais c'est fait voilà pour dire tiens voilà qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que tu as le droit de porter des baskets, des blousons, des salopettes, des bermudas et des casquettes. Voilà, et ça permet de oui pourquoi, enfin je mets bien ce que je veux. Après par exemple cet article là je trouve que la réciproque est pas respectée. Un garçon aujourd'hui,
on peut pas mettre de robe. Jupe, c'est mal.
Je pense que ce serait très mal.
Il y a des petits
vu.
Garçons qui veulent, mais qui effectivement. Ouais.
Et c'est là où je pense que des dur, fois c'est plus dur pour les filles.
Et puis déjà il y a des garçons des pantalons au rayon de vêtements filles. Il n'y a pas l'inverse, donc déjà ils sont même pas aidés. Oui.
Pourquoi voulez-vous que les hommes mettent des robes? Allez, je poursuis. je prends la suite du coup, Popo, parce que j'ai un peu le même type d'ouvrage, c'est-à-dire qui va parler aux enfants, qui va aider à lancer des débats. Il s'intitule « Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? Repartons sur de bonnes bases ». Écrit et illustré par deux personnes, Soledad Bravi et Dorothée Werner, qui est journaliste à Elle. Voilà, et qui a décidé de s'épancher sur ce sujet. En gros, c'est une BD qui cherche donc à démontrer, comme l'explique le livre, les inégalités entre les hommes et les femmes, pourquoi il y en a, mais en humour et en s'appuyant sur des faits historiques et chronologiques. Ces auteurs qui remontent d'ailleurs jusqu'à l'apparition des premiers humains pour trouver les origines de ce déséquilibre, et on va partir de la préhistoire jusqu'à nos jours. Voilà, en 100 pages, on essaye de balayer toute l'histoire de l'humanité pour savoir pourquoi cette inégalité continue à perdurer au fil des siècles et persiste encore aujourd'hui. Et du coup, quelles injustices en découlent? Alors, c'est un très bon livre pour les enfants, une fois de plus. Peut-être pas pour des gens de notre âge où on connaît la majorité des inégalités, bien qu'on puisse apprendre certaines choses, comme par exemple que la science n'a prouvé qu'en 1875 que le sperme aurait bien du mal à faire germer les petites graines tout seul, ce qu'on savait pas à l'époque, et nos chers hommes pensaient qu'ils étaient l'unique responsable de la création d'un enfant. Ce qui donne un peu un sentiment de supériorité que ces hommes pouvaient avoir à cette époque-là. On peut apprendre aussi que pendant le temps de la préhistoire, les femmes allaient se planquer dans la grotte familiale pendant leurs règles pour ne pas tirer les animaux. Et puis, comme c'était pas facile d'attraper les animaux en étant enceintes, eh bien, elles ont été collées direct à la cueillette, qui, bien que permettant de faire vivre à 70% le clan, n'était pas un job valorisé. Parce que les 30% qui restent, quand on ramène la viande, on est super content. Mais comme les hommes chassaient, eh bien c'est eux qui devaient manger la viande pour être forts et robustes pour chasser. Donc ces pauvres dames qui restaient à partir à la cueillette pour nourrir tout le monde, eh bien du coup, elles n'étaient pas valorisées. Elles ne mangeaient pas de viande parce que c'est les hommes qui en avaient besoin pour retourner chasser. Voilà. Donc, ça peut expliquer beaucoup de choses. Donc, il y a plein de petites anecdotes intéressantes.
Notamment la différence entre le physique des hommes et des femmes, selon ton livre.
Ouais. Voilà, parce que elle, justement, elle mangeait pas de viande, donc elle était moins robuste, évidemment. Moyen-Âge, Renaissance, suffragette, guerre froide, jusqu'à l'affaire Weinstein. Ce sont donc des milliers d'années de petites et grandes injustices, d'avancées et de recul des droits des femmes qui sont expliquées avec simplicité. Pour les enfants, les deux auteurs qui racontent tout de même de véritables faits historiques, qui ont amené les hommes à écrire la loi en leur faveur, forcément. Et si les femmes ont l'outrecuidance de prendre la confiance, on leur fait passer le fameux test de la sorcière. Est-ce que vous connaissez ce test de la sorcière ? Alors, c'est simple. On la met dans l'eau, on lui attache les mains et les pieds liés. Si elle flotte, c'est une sorcière, donc on la brûle. Et si elle coule, elle se noie. Voilà. Donc, du coup, c'est le test de la sorcière. Donc, du coup, ben ouais, il n'y a pas trop de solutions possibles.
Oui, mais c'est vrai, dès qu'une femme se différencie un peu, effectivement, ou... Voilà, ou ses preuves d'intelligence ou même de rébellion,
on se disait ça doit être une sorcière, on va lui faire passer le test, donc test malheureusement qui aide pas trop. Donc voilà, et on arrive ensuite à notre époque, inégalité de salaire, violence conjugale, harcèlement sexuel. Voilà, donc pour expliquer quand même l'histoire de l'humanité en 100 pages, ça reste quand même un peu sommaire, mais ça reste intéressant et voilà, toujours
mais
pour les enfants.
Oui,
parce qu'on peut, on prend pas toutes les pages, mais on peut.
De quel âge est enfant de
ado, non, plutôt.
Ouais, enfant. Plutôt ado, mais après, je dirais ado, mais après, dès le CM2, on peut pas toutes les pages, mais par exemple celle de la préhistoire, on peut expliquer, pourquoi, peut-être que les femmes sont moins robustes que les hommes, ça vient d'où, est-ce que c'est normal que elles nourrissaient le clan à 70% et que par ailleurs elles pouvaient pas manger de viande, etc. Donc ça peut donner des pistes.
Déjà, il faut déjà que l'enfant qui lise ça sache ce que c'est la reproduction homme-femme.
Oui.
Et les règles et tout ça.
Mais ça peut être un bon moyen d'entrer aussi dans ce sujet.
Oui, d'en parler un petit peu. Les dessins sont hyper drôles. Hein.
Voilà, mais plus jeune que l'adolescent, je pense qu'il faut le lire avec l'enfant pour prendre certains passages au fur et à mesure pour expliquer. Les dessins sont assez...
c'est amusant.
C'est amusant.
Mais c'est... Ça va droit au but. Enfin, c'est cash quand même.
Allez, sur 100 pages sur une humanité, il faut être cash, hein, sinon ça ne marche pas. Voilà.
Bah super. Mmh.
Ouais. Alors, j'ai pas dit les éditions. Popo, tu.
Rue de Sèvres.
Mmh. Voilà. Mais à toi, Popo.
Ok.
Allez, on replonge dans.
Sur un moins sympa, alors.
Dans un moins sympa.
Non, en fait, c'est pas un livre qui est ni glauque ni déprimant, mais le titre s'appelle Ces hommes qui m'expliquent la vie. C'est un livre de Rebecca Solnit aux éditions de l'Olivier. En fait, c'est des essais, donc c'est pas du roman, ça va pas être un truc atroce. En fait, elle commence...
Juste sordide.
Elle commence en fait par une histoire plutôt drôle, enfin drôle entre je mets des guillemets. En 2003, elle va à une soirée mondaine, un peu... Cette femme, elle est historienne de la culture, théoricienne de l'art, elle est auteure, enfin elle, voilà... beaucoup de cordes à son arc, et donc elle est invitée à cette soirée, elle est américaine, et son hôte vient discuter avec elle, il papote, et il lui dit « Ah tiens, mais dis donc, il paraît que vous écrivez », alors on l'a dit déjà, je sens dans son ton qu'il est un peu condescendant, et donc elle lui présente le thème de son dernier livre, qui est, je ne sais plus ce que c'est, mais peu importe, et là il la coupe immédiatement, et il lui dit « Ah, mais sur ce thème-là, moi j'ai lu... » la référence, et alors là, il lui fait tout un speech sur la thématique. Il lui parle d'un bouquin. Enfin, bon.
Gardien de ma vie, Joël Batz.
Exactement, ça doit être ça, le thème, tout à fait. Bref, il lui apprend Joël Batz, sauf que c'est son livre dont il lui parle. Oh. Le livre qu'elle-même a écrit.
Le plagiat.
Et il lui en parle surtout très très mal, puisque... Et donc, elle parle de ces hommes, justement, qui ont cette attitude qu'elle appelle, mais c'est le mot vient pas d'elle, apparemment. On dit que ça viendrait d'elle, mais elle dit que non. Le mansplaining, ces hommes, voilà, qui expliquent aux femmes de façon un peu paternaliste, très condescendante, la vie. Voilà. Donc j'ai trouvé que l'accroche était assez géniale parce que c'est extrêmement drôle comme situation. On imagine le truc où là, t'as juste envie de le baffer, cet homme-là.
Je crois qu'on a tous des images des séquences là qui nous arrivent en tête d'hommes qui...
En plus, elle le présente très bien, tu sais, un peu très prout-prout péteux. Enfin, c'est génial. Le début est très chouette. Donc voilà, je voulais présenter un petit peu cette femme. Elle s'est engagée dans énormément de combats, de la paix dans le monde, les droits des minorités et le féminisme. Et donc dans ce bouquin, Ces hommes qui m'expliquent la vie, les éditions de l'Olivier ont rassemblé, je sais pas si c'est les éditions de l'Olivier ou si ça avait déjà été fait avant, bref, sont rassemblés 9 essais qu'elle a publiés entre 2008 et 2014 et qui parlent du féminisme. Alors ça, elle va parler vraiment d'énormément de sujets, hein, de la généalogie qui tourne beaucoup autour de l'homme, de l'absence de femmes dans les pouvoirs, du mariage pour tous, de l'affaire DSK, des violences faites aux femmes beaucoup, et même de la brutalité des hommes envers les femmes en général. Et elle va parler aussi des combats des femmes pour passer à autre chose. Et même j'aime beaucoup quand elle parle de l'aberration de certaines luttes, notamment face aux violences faites aux femmes. Elle parle beaucoup de notamment dans les universités américaines où il y a énormément de viols. Il présente comme combat le fait de dire aux femmes, restez dans vos dortoirs, ou faites attention, ne vous mettez pas tenue à guicheuse, pour éviter de vous faire violer. Au lieu d'éduquer, plutôt les hommes à ne pas violer, on éduque les femmes à ne pas se faire violer, voilà. Et donc, elle parle aussi de toutes ces aberrations un peu, dans les combats. Donc, voilà, elle a des thèmes, intéressants, elle a énormément de références, elle parle de beaucoup de statistiques, énormément de faits divers, d'histoire, elle a des références politiques, enfin, elle a une écriture qui est hyper vive, il y a énormément de rythme, on s'ennuie pas, mais finalement, il y a peut-être trop de choses. Je pense qu'il faut lire les 9 essais peut-être séparément. Ils sont pas forcément faits pour être lus ensemble.
D'un bloc,
ouais, parce que finalement, on n'en peut plus, on en a plein la tête. On retient pas grand chose. Moi, le seul truc que j'ai retenu, c'est un chiffre atroce sur les femmes enceintes. Aux États-Unis, une des raisons qui font que les femmes enceintes meurent, la première raison, c'est leur conjoint. Voilà. Et c'est le truc de ce bouquin qui m'a marqué. Mais bon, c'est un chiffre et je crois pas qu'on fasse avancer le monde avec des chiffres. Donc, intéressant parce que, plein de bonnes réflexions, plein d'appuis, mais trop riche, je crois, pour qu'on en retienne beaucoup de choses. Donc, ce que je peux conseiller, moi, si vous voulez lire ce bouquin, lisez-le tranquillement, prenez votre temps, lisez les essais séparément. Je pense que ça aura beaucoup plus d'impact sur vous que si vous lisez tout d'un bloc comme je l'ai fait. Et du coup, on est dans tous les sens, quoi. On ne sait plus où on en est.
Merci, Popo. Super.
Voilà. Ah oui,
ça a l'air intéressant.
Oui, ouais. Ça a l'air, c'est très intéressant, ouais.
Ok.
Ouais.
Ok, donc nous n'entendrons pas Où sont les femmes que voulait écouter Valérie. Vu que c'est Louise qui choisit les chansons dans cette émission. Et ouais,
non,
c'est
j'avais,
comme ça.
Je caressais l'espoir.
J'y ai pas pensé, c'est vrai, mais tu aurais dû m'envoyer un message ce matin. Mmh.
Alors, du coup, on va écouter plutôt une artiste que tu adores.
Oui, que j'aime beaucoup, que je connais pas beaucoup, mais le peu que j'en ai écouté, ça m'a vraiment transportée.
Ah, qui est une histoire terrible côté femme.
Vie personnelle, oui. C'est Nina Simone.
Allez, c'est parti.
Et le titre est assez drôle.
C'est
Je vous le dirai après.
Don't care.
Dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly. Marriage is for old folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. I love singing. Good, healthy, clinging, quietly bringing on a spree. Marriage is for old folks, cold folks, not for me. One married he, one married she, what do you got? Two people watching TV. Being free, and I'm
stop being me. I gotta sing my song. Why should I belong to some guy who says that I'm wrong? Cooking dinner, looking no thinner, gray elbows in a sudsy sea. Marriage is for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life. Exploding with youth and with zest. Who needs corroding in some vulture's nest? I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bell's really gonna ring. Old folks, marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife, what you got? Two people sentenced for life. Marriage is for old folks. Marriage is for cold old.
Allez, après cette petite pause musicale où nous avons parlé de séries, pour tout vous dire, rien ne vous cacher, on revient dans ce thème du féminisme. Et je vais entamer cette deuxième partie d'émission. Tu parlais de plagiat tout à l'heure, Popo, dans ton essai de la personne qui présentait un livre.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Et ben, je vais en parler aussi, mais dans un deuxième temps. Alors, c'est un collectif, tu peux peut-être nous en dire un mot, Héloïse, c'est le collectif Georgette Sand. Si tu en sais un peu plus que moi.
Et non, désolé.
Alors, ben, je vais pouvoir en parler. Donc, c'est un collectif qui se bat contre le féminisme et qui a sorti...
contre les inégalités. Tu as failli te faire lyncher, mon pauvre Ludo.
Excusez-moi, contre les inégalités. Et donc, qui a sorti ce premier livre qui s'appelle « Ni vu, ni connu, Panthéon, histoire, mémoire, où sont les femmes ?» Georgette Sand, pourquoi ? Parce que, ben voilà, hein, Georges Sand, mais... Pourquoi ne pas l'appeler Georgette, à une époque où on était obligé d'avoir un prénom masculin pour pouvoir sortir ou vendre des livres. Ce livre, il nous présente le portrait de 75 femmes tombées dans l'oubli malgré leurs impressionnantes réalisations artistiques, politiques, scientifiques. Il y a également des sportives, des aventurières et des personnes dont certaines ont été volontairement invisibilisées au profit d'hommes. On en a parlé dernièrement dans l'actualité, cette minimisation des contributions scientifique, l'effet Mathilda, où on compte 48 lauréates sur 897 lauréats depuis la création du prix Nobel. Alors, par exemple, il faut savoir que Marie Curie ne devait pas voir son Nobel, l'Académie l'avait destiné à son mari. Lise Meitner joue un rôle majeur dans la découverte de la fission nucléaire, mais c'est son collègue Otto Hahn qui obtient le Nobel. Jocelyn Bell Burnell découvre le pulsar, mais c'est son directeur de thèse Anthony Ewish qui est récompensé. Donc ça, il y en a tout le long de l'histoire, à une époque où voilà, on récompensait les hommes et pas les femmes. Alors dans cet ouvrage, toutes ces femmes ne se sont pas fait spoiler leurs travaux. On retrouve donc des aventurières, des intellectuelles, des artistes simplement oublié. D'ailleurs, ce livre se découpe en catégories. Il y a les artistes, les aventurières, les méchantes inventées ou avérées, les femmes de pouvoir, les intellectuelles, les militantes et les scientifiques. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, on ne parle pas de l'histoire dans les livres d'histoire d'Irma Grez. Est-ce que vous connaissez Irma Grez, Popo ?
Pas du tout.
Même Popo ne la connaît pas.
Du tout.
D'accord. Alors, Irma Grez a fortement participé à l'extermination de millions de juifs sous le régime nazi, mais on a volontairement minimisé son rôle qui ne collait pas avec l'image de la femme.
Bah oui.
Donc, c'était une grande tortionnaire qui était bisexuelle, donc qui violait ses victimes, qui est partie à Auschwitz. Enfin, mais une personne, mais atroce dans l'histoire de l'humanité. Rien du
et
tout.
Et là aussi, ça a été minimisé.
Ben non, parce qu'à l'époque, après-guerre, il fallait surtout pas, avec toute cette horreur, qu'en plus, il y ait des femmes qui aient pu commettre ça. Et même, on l'a pas de nos jours, on n'en parle toujours pas. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que même les personnes qui sont du mauvais côté, on montre que il y a quand même une égalité de traitement entre hommes et femmes. Alors une question, quel est le premier homme à être allé dans l'espace ? Facile.
Dans l'espace,
oui. Gagarine.
Voilà, Gagarine. En 1961, quelle était la première femme ?
Il n'y en a pas.
Si ?
Ah si.
En 63, deux ans après, toujours une Russe. Mais personne.
Eh ben, je sais pas.
Laïka, personne. Non.
Et je suis sûr que.
C'est un chien.
Alors, et c'est ce que dit le livre, qu'on parle encore plus du chien qui est dans l'espace que ça. Et vous allez dans la rue, vous demandez quel est le premier homme à être allé dans l'espace, ben, il y a 70% des gens qui vont trouver que c'est Gagarine, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement connu. Vous parlez de la femme, je ne suis sûr que vous aurez que.
Mais regarde, nous, on représente la population française et on savait pas.
Alors, il s'agit de Valentina Vladimirovna Terechkova, qui était dans l'espace seulement deux ans après Gagarine.
Explique que cela, peut-être.
Ouais, après, Terechkova, elle s'appelle. Que Gagarine, on l'appelait Gagarine. Donc voilà, c'est des exemples de ces femmes-là. C'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant, car à quelques exceptions près, ce sont vraiment que des femmes inconnues, ni vues ni connues. Il y a Rosa Parks, donc, qu'on connaît, mais à part deux, trois femmes, il y a des aventurières énormes, une des plus grandes aventurières, la première femme qui est partie au Tibet. Par exemple, c'est une histoire formidable.
C'est pas Alexandra Davidnel ?
Je ne sais plus, je ne l'ai pas noté.
D'accord. Non, mais c'est pas...
Voilà, c'était mal vue, donc elle se déguisait en mendiant avec des haillons, elle a perdu 18 kilos sur son périple pour aller visiter le Tibet, parce que c'était extrêmement compliqué d'y aller, et d'autant plus qu'on était une femme.
Il faut avoir une sacrée niaque pour faire ça, quoi. Enfin, pour arriver à atteindre un but comme ça, quand même.
C'est ça, oui. Alors, donc, il y a les femmes de pouvoir aussi. Il y a les méchantes où l'histoire expliquait qu'elles étaient méchantes alors qu'elles l'étaient pas vraiment. C'était des hommes qui cachaient leurs méfaits en mettant une femme qui a fini sur un bûcher, etc. Et donc, après, il y a toutes ces militantes qui se sont battues pour diverses combats, hein, que ça soit le droit des femmes, contre le racisme, etc., etc. Mais vraiment, vraiment, bravo à ce collectif, à ce livre. C'est un beau livre. Il y a une photo à chaque fois ou une peinture. Et vraiment à conseiller.
Mais tu dois être indigné à chaque page, quoi. Tu dois dire, oh non, c'est pas possible, quoi.
Oui, 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 complètement.
C'est fou, ouais.
Complètement. Qu'elles aient été spoilées ou pas. Parce qu'après, voilà, il y a des peintres aussi qui sont connus. Moi, j'ai des artistes peintres. Je me suis renseigné pour savoir s'ils connaissaient ces peintres-là, oui. Mais en dehors du grand public, il y a des peintres féminins en même temps que Picasso, en même temps que toutes ces personnes-là qui ont beaucoup apporté. Je ne peux pas dire autant parce que je ne suis pas assez spécialiste en art, mais qui ont beaucoup apporté à l'histoire de l'art à leur époque. Personne n'en parle. Ils sont totalement passés dans l'oubli.
Oh bah ce livre peut y remédier un petit peu.
C'est ça.
Ça a l'air assez chouette.
Ouais, ouais. Ça a l'air vraiment bien. Ouais.
Vraiment bien. Voilà.
Super. C'est chez qui ?
Mais c'est Valérie.
Le collectif des Hugo Doc.
Hugo Doc.
Édition Les Simones.
Voilà.
Donc Frankenstein.
Ah oui, puis c'est une auteure et puis Marie toute jeune Chénier, pour le coup.
C'est ça. C'est incroyable. On nous a menti.
Ouais. On nous a travesti
alors
la réalité.
Alors, c'est qui, toi, la femme qui t'a le plus...
Oh, mais il y en a plein. Vraiment, il n'y a personne qui sort du lot. Elles ont toutes des histoires tellement extraordinaires que... qu'on se demande comment ça se fait qu'on n'en parle pas, quoi. Et surtout qu'on n'y remédie pas maintenant, en 2018. Voilà, parce que qu'on ait une époque compliquée, un certain moment de notre histoire, bon, mais c'est compréhensible. Maintenant, on va se battre au niveau du ministère, des professeurs, sur des programmes, sur des trucs futiles de guerre, enfin, etc. C'est pas compliqué de prendre un livre comme ça, enfin, de prendre l'histoire, de rajouter 50 femmes dans les manuels qui ont vraiment apporté quelque chose à l'humanité.
Oui, et d'en mettre quelques-unes au Panthéon et d'essayer un peu redorer. Voilà.
Allez, Brigitte, au boulot. Non, je vais lancer un message à la première dame de France. Allez-y, je ne sais pas qui veut parler.
Moi, j'y vais. J'ai un petit livre très sympa qui s'appelle « Histoire du soir pour filles rebelles, sans destin de femmes extraordinaires ». Et du coup, ça rejoint un petit peu ton livre, Ludo, c'est-à-dire que... Bon, là, ça sera plutôt pour les enfants, même si j'ai appris moi-même énormément de choses... Et plein de figures effectivement tout à fait oubliées ou méconnues.
C'est un super livre, on l'a offert à...
Ouais, tu le connais ?
Ouais, on l'a offert à une petite fille il n'y a pas longtemps.
Bah voilà, très bon choix. Et du coup, c'est un livre italien à la base, mais il a été traduit dans une vingtaine de langues. À la base, c'était aussi un financement participatif parce qu'aucune maison d'édition ne voulait éditer ce livre. Et c'est le livre qui a récolté le plus d'argent sur ces plateformes-là. Enfin voilà, en tant que livre, $1 million dollars, quoi. Ah oui. Quelque chose d'énorme. Et à chaque fois, ça fait une page, une femme, deux pages, c'est-à-dire une histoire écrite sur une page, et à droite, un portrait, en fait, un dessin. Toutes les illustratrices sont des femmes. Donc ça se peut se lire, en fait, comme un livre de contes, hein, une histoire chaque soir, ou deux histoires, deux portraits. Ça commence par toujours « Il était une fois une jeune fille ». Qui aimait ou qui faisait ou qui voilà. Et ça se lit réellement comme de la fiction, sauf que c'est des histoires vraies de femmes. Et on va de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à des personnes en fait qui sont encore vivantes. À chaque fois, il y a des petites citations aussi. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a fait du bien à feuilleter, en fait, parce que c'est très positif. Et même sur des personnages comme Frida Kahlo ou des. On parle un petit peu du côté dur de leur vie, mais ça axe surtout sur le côté positif, sur la niaque, sur l'envie de se battre, sur l'envie de réussir et de s'accomplir, d'être heureuse. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment du bien et ça peut faire du bien à tout un tas de jeunes filles comme de jeunes garçons. Enfin voilà, le titre s'appelle « Pour jeunes filles rebelles », mais évidemment que les auteurs disent que... dans la préface, que voilà, c'est très bien aussi pour tous les enfants, en fin de compte. Donc voilà. Et ça m'a beaucoup appris. On parle de politique, on parle de princesse, on parle de sport, on parle de littérature. Il y a tout un tas de choses et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien, je trouve. Et c'est un livre qu'on devrait offrir à tous les enfants, franchement. Au lieu d'un dictionnaire, on offre ça.
Voilà, il faudrait offrir ce livre pour les enfants et le mien pour leurs parents.
Bah ouais.
Ce que j'ai présenté avant.
Ça plairait aux ados, à ton avis, à des ados ?
Oui, tout à fait. Oui, oui. Parce que ça se feuillette facilement, c'est court à lire aussi.
Ouais, donc c'est impeccable.
On choisit, les illustrations sont très différentes, donc on a de la diversité, même dans les portraits de ces femmes-là. Donc vraiment.
T'as eu comme Ludo des découvertes de femmes que tu connaissais pas ou
plein,
qui on a usurpé des victoires, des choses comme ça.
Et ben il y a par exemple cette peintre, on parlait de peinture là, cette peintre qui s'appelle Artemisia Gentilici. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Pas du tout.
Mais voilà, c'est une peintre italienne qui est née en 1593. Elle a été initiée à la peinture par son papa qui était un homme très ouvert et qui trouvait qu'elle avait du talent. Et elle s'est battue. Elle a été auprès d'un maître qui l'a un peu harcelée sexuellement et elle a porté plainte. À l'époque, c'était vraiment pas évident. Elle a gagné son procès à l'époque contre son maître. Enfin, c'est une sacrée femme et c'est vrai que j'ai regardé ses peintures et je connaissais pas du tout et c'est magnifique, quoi. Voilà, par exemple.
Super. Merci, Héloïse. Ouais.
Bah, merci à vous.
C'est magnifique. Comme ta coiffure aujourd'hui, Valérie, je tiens à te le dire. Ça te va très bien. Tu es chez le coiffeur ?
Je me suis pas coiffée.
Ah, tu t'es pas coiffée ? Eh ben, et
je me suis fait la même réflexion que tout à l'heure. Je me suis dit que ça t'allait très bien aussi.
Ouais, eh ben écoute, voilà la solution.
Dès aujourd'hui, j'arrêterai de passer un coup de panier le matin. Je resterai ébouriffée.
Ok.
Pour l'anecdote, ce matin, j'ai sur Snapchat, il y avait un filtre Chewbacca. Et je me suis rendu compte que j'étais coiffée comme lui.
Oh, quand même pas. Allez, Popo, à toi l'honneur.
Ouais, mais c'est bien parce qu'on a parlé de femmes incroyables, de femmes accomplies, de femmes qui ont fait des grandes choses. Et ben moi, mon auteur, elle a fait des choses incroyables. Oh là là. Je sais pas si vous connaissiez Chimamanda Ngozi Adichie.
Alors, oui, moi, j'ai pas lu un de ses romans qui s'appelle Americana.
Voilà, un gros succès récent. Ben, moi, je la connaissais pas. Ben, il faut la connaître. C'est incroyable, cette femme. Elle est née au Nigeria, qu'elle quitte le Nigeria à 19 ans pour les États-Unis. Elle étudie à Johns Hopkins, à Yale. Elle va avoir le prix MacArthur, alors ce qu'on appelle le prix des génies. C'est décerné en secret par des gens. C'est une bourse, en fait. À des gens, voilà, aux grands esprits du monde. Elle a eu une bourse d'études à Harvard. Elle a écrit plusieurs romans à succès, dont Americana, dont tu parlais, Hibiscus. Elle a écrit donc des fictions. Enfin, c'est une femme ultra accomplie. Pour moi, c'est une réussite. Et donc, elle a écrit ce livre qui est publié chez Folio et qui est absolument hideux, j'ai le droit de le dire.
La couverture est dégueulasse.
Franchement, c'est une horreur. C'est une couverture rose, même pas un joli rose, avec une espèce de découpage papier en forme de bouche atroce. Et dont le titre mal traduit est « Nous sommes tous des féministes ». À la base, c'est « We should all be féministes ». Donc, nous devrions tous être féministes. Donc voilà.
Mais qu'est-ce que fait Folio là ?
C'est un scandale.
Ça fait une grande différence quand même, c'est vrai. Ouais.
C'est pas la même chose. Hein. Donc voilà, ne vous arrêtez ni au titre ni à la couverture et passez outre pour ceux qui nous écoutent parce que c'est une horreur, mais ça ne rend pas du tout justice à ce qu'il y a dans le livre.
On va colorier la couverture.
Ah ouais, faut lui mettre du papier, faut faire un truc. Enfin bon. En fait, donc dans ce bouquin, il y a deux textes différents. Je vais vous parler seulement du premier. Nous sommes tous des féministes parce que c'est celui qui est celui qui est dans le thème d'aujourd'hui. Le deuxième est intéressant aussi, mais c'est une fiction qui tourne autour de la femme, mais qui a moins d'importance, au vu de notre thème. Et donc, nous sommes tous des féministes. C'est le texte d'une conférence à laquelle Chimamanda a participé en 2015. Que vous pouvez retrouver en vidéo, qui a été vue plus d'un million de fois sur YouTube, qui a eu un retentissement énorme. Et donc, elle raconte, elle commence en disant qu'à l'âge de 14 ans, elle discute avec un de ses amis qui la traite, c'est vraiment le mot, de féministe, qui lui dit « Ah ouais, toi, dis donc, t'es une féministe ». Et elle sent vraiment dans ses mots que c'est une insulte. Alors après, elle sait pas trop ce que ça veut dire à l'époque, donc elle ose pas répondre, elle cherche pas plus loin, mais voilà, elle sent que c'est vraiment pas sympa, quoi. Plus tard, elle fait la promotion de son livre, donc au Nigeria, et puis un journaliste qui vient la voir, elle raconte ça avec en plus aussi beaucoup d'humour, et qui lui donne un conseil un peu discrètement, mais faites, vous devriez vraiment faire attention parce que, on pourrait vous prendre pour une féministe, vu les textes que vous écrivez. Alors là, elle se rend compte qu'il y a vraiment un souci, une image de la féministe absolument atroce. Et alors, je vais vous lire un petit passage parce qu'en plus c'est rigolo. Elle décrit l'image de la féministe et elle dit on déteste les hommes, on déteste les soutiens-gorge, on déteste la culture africaine. Alors voilà, là c'est à son côté africain qu'elle fait. Dont elle parle, on estime que les femmes devraient toujours être aux manettes, on ne se maquille pas, on ne s'épile pas, on est toujours en colère, on n'a aucun sens de l'humour, et surtout on ne met pas de déodorant. Voilà, donc elle part de cette image un peu cliché de la féministe, mais je crois que je pense qu'elle se trompe pas trop en se disant qu'il y a encore beaucoup cette image-là de la féministe qui est pas du tout l'image de ce qu'elle est vraiment. Et donc, dans un langage simple, malgré son cursus, sa culture, son intelligence, elle parle d'expériences vécues ou peut-être imaginées, qu'elle décrit comme vécues. Et elle aborde tout un tas de petites questions sur l'égalité des genres tout en essayant de montrer que le féminisme, c'est pas forcément un combat plein de... c'est pas forcément déjà un combat, mais une manière de vivre, une attitude, des réflexes, et qu'en plus, on a tous à y gagner. Parce que finalement, le féminisme, on le voit pour la femme, mais finalement, l'inégalité entre les sexes, ça enferme aussi les hommes dans un schéma dans lequel ils n'ont pas forcément non plus envie d'être. Et je trouve qu'elle a ce talent-là. Alors, je sais que ça lui a été reproché parce que des féministes très très activistes, très extrémistes, je vais dire, même si le terme est pas joli joli, lui ont reproché justement de simplifier un peu le combat féministe, j'y arriverai, dis donc. Mais moi, je trouve que justement, c'est la qualité de ce bouquin-là, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, il est accessible à tous. Il va, je vois pas comment on peut ne pas se sentir concerné par le sujet une fois qu'on l'a lu, parce qu'avec des mots très simples et des arguments extrêmement simples, elle nous démontre que tout le monde a à gagner de reconnaître la femme comme l'égale de l'homme, et que voilà, ce sera un plus pour tous, pour les femmes, mais pour tout le monde aussi. Donc, je sais que ça a été distribué. Alors, je ne sais plus si c'est au Danemark, dans les écoles, c'est ça ?
Je ne sais pas, mais c'est possible.
Il me semble que ça a été distribué dans des écoles au Danemark ou en Finlande, je ne sais plus, je ne l'ai pas retenu. Et je pense que ce n'est pas une idée bête, parce que c'est un texte vraiment accessible et qui va avoir un impact facile sur les gens, de se dire, bah oui, on est bête, en fait, de pas faire attention à toutes ces petites choses de la vie qui font qu'on est inégaux, alors qu'on pourrait se traiter de la même manière. Et donc voilà, c'est vraiment un livre à lire, c'est très court, hein, ça fait 40 pages ou 50 pages, même pas, 40 pages, ouais. Et c'est surtout, c'est écrit, c'est une écriture extrêmement abordable, c'est très chouette comme texte, vraiment je vous le conseille, et je comprends pourquoi ça a eu autant de succès. Voilà, c'est un texte de qualité et qui va convaincre tout le monde, je pense.
Et qui est à 2 euros.
Et qui est à
2 euros. Parce que Folio le marque en gros sur sa couverture.
Non, mais après, bon, bah voilà, c'est accessible, tout le monde peut l'acheter, effectivement. Et rien que les bases, en fait, ça peut aider, en fait, si tout le monde a connaissance des bases, en fait, du féminisme.
Ouais.
Je pense que ça pourrait avoir un impact certain.
Ouais.
Merci, Popo. Allez, on finit en beauté avec notre ami Chewbacca.
Je ne m'étais pas épilée pour l'occasion.
Ça ne nous regarde pas.
Mais
ça,
tu as
Valérie.
Le droit de faire ce que tu veux de ton corps, Valérie.
Non, le dernier bouquin dont on va parler porte le titre de Féministe, récit militant sur la cause des femmes. C'est un recueil en fait de 16 autrices, puisqu'on va réhabiliter le mot au féminin, avec 16 points de vue différents.
Ça ne se dit pas autrice.
Eh bien, écoute, ça se disait autrefois, donc maintenant, on peut le rétablir. Ben justement, tu vois, tu réponds très bien aux dernières BD qu'il y a. Donc, il y a 16 petites BD dans le livre. La dernière, c'est sur l'écriture inclusive. Et moi, j'étais un peu réfractaire à cette écriture inclusive.
Moi aussi. Et,
ben ouais, mais tu liras le livre féministe Petit récit sur la cause des femmes.
Je ne suis pas sûr que ça m'a fait changer d'avis.
Alors, ça te fera peut-être pas changer d'avis sur tout, mais sur le fait, par exemple, que j'utilise le mot autrice, sur le fait que, voilà, des
mais
choses comme ça.
Mais auteur en rajoute un.
Ah non. Mais normalement, c'est.
Non, mais
c'est
voilà.
C'était avant le 18e siècle. Parce que figurez-vous, et ça, je l'ai appris en lisant ça, c'est que avant alors c'était avant quand ? Avant le 18e siècle, je crois, tous les métiers étaient, on pouvait dire les noms des métiers tant au masculin qu'au féminin. Voilà. Et quand il y avait un groupe de personnes, par exemple, là nous sommes quatre à la radio, il y a Ludovic de sexe masculin et nous trois de sexe féminin. Autrefois, on aurait dit elles sont à la radio parce que nous étions, nous femmes, un nombre supérieur que les hommes. Sauf qu'aujourd'hui, la bienséance veut qu'on dise ils sont à la radio puisqu'il y a Ludovic, même s'il est tout seul à porter des lunettes.
Le fardeau.
Et voilà, être un
homme. C'est une règle qui n'est pas très ancienne.
Et c'est une règle, en fait, qui a disparu. Je suis en train de le rechercher, mais très récemment.
C'est fou, quand même.
Ben oui, ouais. Moi, je pensais que, justement, c'était plutôt, au contraire, hérité d'un passé
tout.
Un peu...
Non, ça a été transformé. C'était une ancienne logique. C'était la majorité, nouvelle logique hiérarchisante. Et c'était... Oh, je ne trouve plus la date. Zut.
Mais s'il faut compter à chaque fois. Et si tu as une... parles de spectateurs ou spectatrices à un concert. Comment tu fais ?
Non, moi, c'est de dire au hasard. C'est pas grave.
Ne bougez plus, on va vous compter.
Mais voilà, après, il faut aussi accepter ça. Après, dans la même BD, ils disent, voilà, par exemple, la reine disait...
On n'accepte rien, Valérie.
Elle disait, reine, oui, je la suis. Au lieu de dire, oui, reine, je le suis. Tu vois, enfin, de dire, oui. Voilà.
Ce qui paraît logique, en voilà. plus.
Oui. Mais c'était comme ça avant.
Et ce qui est joli, je trouve.
Ce qui était comme ça avant. Et là, l'auteur de cette petite BD, là, c'est Morgane Parisi. Elle dit, voilà, ce serait très simple à remettre un ordre de route et ça permettrait de rétablir une certaine vérité. Pour elle, ce serait quelque chose de facile qui permettrait facilement de changer. Donc ça, c'est une des 16 autrices. Donc.
J'ai l'impression que ça t'a convaincue.
Eh ben, moi qui partais hyper réfractaire au sujet, j'ai bien aimé. Après, c'était un peu comme le tien, Pauline. Pourtant, moi, j'avais que des images. J'avais joué la simplicité en prenant une BD. Mais c'était hyper, hyper lourd à lire. Je n'ai pas pu le faire d'un bloc. Parce que les 16 auteurs ont eu carte blanche pour parler de leur féminisme à elles. Mais chacune a eu des points de vue différents. On va avoir celle qui pouvait pas marquer de but au foot avec ses copains en robe. Donc elle avait acheté un jogging, elle avait trouvé un Bob Ricard et elle l'a jamais quitté. Elle jouait avec ça. On va avoir une autrice qui rencontre une jeune fille et qui s'est prostituée pour financer ses études. Chaque fois, par contre, c'est fait sans jugement. Il y en a qu'un que je trouve un peu jugeant, mais j'y viendrai après. Et il y a mon préféré qui est celui d'Ingrid Chabert. C'est une jeune carcassonnaise, une jeune fille de Carcassonne. C'est une BD en fait, où elle décrit les hommes. En fait, ça fait un peu comme George Orwell dans Animal Farm. En fait, les hommes ont des têtes d'insectes. Voilà, et les femmes sont toutes des femmes ordinaires, et ils interpellent les femmes, ils les sifflent, hey, ma chérie, tu veux pas venir vite fait, enfin, plein de petits désagréments que l'on a tout entendu, et à la fin, elles écrasent les insectes avec leurs chaussures, avec leurs talons, avec leurs converses, avec leurs baskets, enfin,
c'est voilà. Extrême, hein.
C'est ça. Après, il y en a un autre, ça va être sur le cliché, une jeune fille qui va dire, voilà, ben moi, je suis parisienne. Chaque fois qu'on me voit, on me dit, mais t'es de quelle origine? Parce qu'elle est typée asiatique, parce qu'elle a été adoptée. Et elle me dit que voilà, je suis une femme, je suis adoptée, je suis d'origine asiatique.
Et parisienne.
Et elle se revendique marseillaise. Du coup, quand on dit t'es d'où, elle dit, je suis de Marseille. Voilà, c'est des... Et plein de. Voilà, après, il y a aussi la découverte du vagin. Il y a toute une très intéressante pour les hommes. Il y a tout un passage sur comment ça marche et le dessin est assez explicite. Voilà. Après, il y a celle sur les personnes qui sont transgenres parce qu'on parle de féminisme. Il y a aussi alors c'est là où j'ai trouvé un peu raide, c'est parce qu'il y a un vocabulaire vraiment particulier et que je trouve malheureusement va ranger toutes les personnes qui utilisent ce vocabulaire.
Y a-t-il des auteurs que tu connaissais?
Aucune.
Oh, le piège.
Non, il y a un garçon dans le lot, en fait. Mais je crois qu'il y a un garçon. Enfin, pareil, il y a un garçon, mais il faut que j'utilise le bon terme. Puisque, voilà, il y a tout un vocabulaire sur les personnes.
C'est chez qui? Je connais
c'est
pas
chez,
ce genre.
C'est chez
Videux
Cocagne.
Ah, je connais pas.
Ouais. Ils ont fait plusieurs.
C'est une petite maison d'édition assez militante qui fait des choses très chouettes et qui sort peu de livres par an. Et ils ont fait en fait cette collection. Donc là, c'est le féminisme en BD, ce qui peut être un bon moyen d'approcher aussi ce courant-là.
Complètement.
Ils ont fait aussi l'hôpital public, par exemple, en BD, donc c'est-à-dire des témoignages d'infirmières, de docteurs, etc., pour aborder différents problèmes en fait de notre société, quoi.
Ouais, c'est vraiment une chouette approche. Moi, à part
le vagin.
Non, la BD sur les personnes transgenres, tout ça, je j'ai aucun souci.
T'as pas d'esprit d'ouverture.
Si, mais justement. Et je trouve que de râler parce que voilà, ils disent voilà, mais c'est pas normal quand je suis en pleine transformation de mon corps, mon enveloppe physique, et quand je vais aller à la banque, ma pièce d'identité correspond pas. Oui, mais il faut laisser le temps au temps. Les mentalités changent. Et je trouve qu'en créant un nouveau lexique qui n'est pas connu, j'ai peur qu'en fait ces personnes-là se mettent à l'écart en fait de. Alors que je pense qu'il y a une très grosse, j'espère une très grosse partie de la population qui accepte et qui à la limite respecte le choix de vie de tout le monde. Là, on se met un peu à part, voilà, parce qu'il faut savoir ce que c'est un cisgenre qui n'est pas pareil que le mégenré, que c'est quelqu'un qui est intersexe. Enfin, après, on comprend leur souffrance.
Oui, non,
mais
c'est compliqué, mais voilà. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut assimiler. Un problème. Non, c'est des faits qui sont quand même relativement minoritaires,
oui.
On va dire.
Oui.
Et c'est vrai qu'il
même
faut
si
pas
on
le...
est conscient qu'ils existent, mais voilà. C'est...
Voilà, faut pas le, les reléguer comme si ça existait pas. Mais de notre côté, faut pas. Enfin, faut pas le revendiquer avec violence, quoi. Voilà.
Très bien, Valérie, j'ai compris ton message. Je viendrai en femme dans 2 semaines.
C'était pas facile.
C'est bon, on a fait le tour.
Ouais. Oui. Est-ce que nous sommes tous des féministes?
Oui, nous devrions tous être.
Oui.
Oui, oui, moi je suis féministe. Évidemment. De quoi allons-nous parler dans 2 semaines?
Ah oui, c'est vrai.
Alors dans 2 semaines, on va parler d'albums jeunesse vintage.
Oh génial, super.
Chouette. Allez.
Tu pourras venir en femme et en robe.
En femme vintage. C'est ça. Absolument. Allez.
Bon après-midi.
Ciao. Salut.
Ciao.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On le voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.